Le débat du jour. Aurélien Devernoy.
Bonsoir à toutes et à tous. Il y a un peu plus de deux semaines maintenant, Abdelmadjid Tebboune était élu président de l'Algérie dès le premier tour de scrutin, une victoire contestée par le mouvement du Irak, l'accusant notamment d'être à la solde du tout-puissant général Gaïd Salah. Mais le chef de l'armée est mort la semaine dernière, une disparition qui entraîne une foule de questions et notamment, qui va désormais réellement présider aux destinées du pays? Abdelmadjid Tebboune peut-il tenir les promesses qu'il a faites lors de son élection? L'Algérie a-t-elle les moyens de s'affranchir de la tutelle de son armée? Bref, qui pour diriger l'Algérie? C'est notre débat du soir. Et pour en débattre, Jean-Pierre Filu, historien et politologue spécialiste de l'islam contemporain, professeur à Sciences Po, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, vous êtes également l'auteur de Algérie, la nouvelle indépendance, qui vient tout juste de sortir aux éditions du Seuil. Majid Benchrir, ancien doyen de la faculté de droit d'Alger, professeur émérite de l'université de Cergy-Pontoise, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous avez de votre côté écrit « Algérie, un système politique militarisé » aux éditions L'Harmattan. Alors, justement, de l'armée, on va en parler, mais pour l'instant, commençons peut-être avec la question la plus simple, et peut-être aussi la plus compliquée. Qui, aujourd'hui, concrètement, dirige l'Algérie? On va commencer avec vous, Jean-Pierre Filu.
C'est clairement toujours le cercle de ce qu'on appelle pudiquement les décideurs, c'est-à-dire un groupe de généraux en recomposition permanente, de façon à préserver ses privilèges de caste. C'était Gaïd Salah, le chef d'état-major, qui en était la figure de proue jusqu'à la semaine dernière et à son décès de crise cardiaque. Et c'est aujourd'hui l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre qui lui a succédé, mais pour l'instant avec le même langage, toujours aussi agressif et martial.
Alors Saïd Chengria, on va en parler justement. Majid Benchir, pour vous, qui aujourd'hui est vraiment à la tête du pays, qui tire les ficelles en Algérie?
Vous savez, en Algérie, ce n'est pratiquement jamais une seule personne qui gouverne. Et donc, le changement du chef d'état-major ne signifie pas qu'il y a un changement de direction politique du pays. Autrement dit, c'est toujours le commandement militaire qui est aux commandes, comme depuis déjà très 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 longtemps.
Alors, vous parliez du décès du général Gaïd Salah. Il y a des points de vue contrastés un petit peu sur l'impact que peut avoir cette disparition. Est-ce que cela affaiblit Abdelmadjid Tebboune, dont on disait qu'il était le protégé de Gaïd Salah, ou est-ce que ça lui donne, au contraire, une plus large marge de manœuvre, Majid Benchir?
Je crois qu'au départ, ça peut lui donner une petite marge de manœuvre dans la mesure où celui qu'il a fabriqué ou qu'il a mis en avant a disparu et que par conséquent, il peut se sentir moins obligé. Mais ce sont des descriptions, des analyses un peu superficielles. On ne peut pas, de toute manière, compter sur le fait que la présidence de la République, surtout dans une période comme ça, et surtout compte tenu de l'histoire du personnage, l'actuel président, considérer qu'il va conquérir un espace parce que son tuteur a disparu. Il ne pourra pas conquérir un espace sur les questions essentielles. Il peut s'adonner à la gestion de tel et tel secteur ou de tel et tel problème économique, mais il ne peut pas concevoir, décider d'une stratégie politique par rapport à ce qui se passe au problème essentiel, qui est la contestation du système politique par le peuple algérien.
Alors Jean-Pierre Filu, constitutionnellement parlant, Abdelmadjid Tebboune a quand même beaucoup de pouvoir en tant que président de l'Algérie. Vous pensez qu'il a quand même la possibilité de répondre aux promesses qu'il a faites, notamment en direction du mouvement du Irak? Il a promis une révolution.
Depuis 1962, il y a le pouvoir réel et le pouvoir supposé constitutionnel. Les deux coïncident très rarement. Et c'est le cas pour le président Tebboune, dont on doit rappeler qu'il a été très mal élu. Les chiffres officiels de 40% de participation ne correspondent pas aux chiffres réels, qui seraient sans doute inférieurs à 10%. Mais je voulais juste revenir sur le symbole très fort de la mort de Gaïd Salah, parce que J'ai écrit à de nombreuses reprises que c'était un système à bout de souffle. On voit que c'est un système qui est en fin de cycle biologique, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a une disparition du fait d'un épuisement des dirigeants. Et Gaït Salah était le dernier de ces chefs d'état-major qui pouvait se prévaloir d'une participation à la lutte anticoloniale, ce qui n'est pas le cas de son successeur. Donc ça veut dire que on a quand même tourné une page dans l'histoire de l'Algérie. Et que maintenant, plutôt que de regarder dans le rétroviseur, plutôt que comme en 1999, ramener d'exil Bouteflika parce qu'on avait des souvenirs plutôt sympathiques de lui quelques décennies plus tôt, eh bien on pourra regarder vers l'avant et ça veut dire évidemment un renouvellement du personnel politique qui doit aller bien au-delà de tout ce que Tebboune a promis.
Alors justement, dans un pays où finalement depuis 50 ans, 60 ans, toute la légitimité politique est beaucoup rassemblée sur le fait d'avoir été un Moudjahid, un ancien combattant de la lutte de libération nationale, comment on fait aujourd'hui pour se construire une légitimité politique en Algérie, Majid Benchir?
La légitimité politique ne se construit pas seulement sur le fait qu'ils ont été eux-mêmes, c'est-à-dire personnellement, des combattants de la libération. Il se trouve que ceux qui ont gouverné n'ont été des combattants qu'aux frontières, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas participé à la guerre de libération nationale. Et cela, évidemment, ils le couvrent, ils le cachent, ils l'occultent complètement. Donc c'est une légitimité. Cette légitimité qui est recherchée est en réalité une fausse légitimité. Donc vous voyez déjà, évidemment, les gens qui sont au pouvoir, ils se fabriquent des légitimités dans le cadre des systèmes autoritaires tels que celui qui a toujours régné en Algérie. Alors maintenant, est-ce qu'on peut penser à une autre légitimité? Oui, la bonne légitimité aujourd'hui, qui serait en adéquation avec ce que réclame le peuple algérien très clairement, c'est la légitimité des urnes, mais dans le cadre d'une transition démocratique, c'est-à-dire en préparant le terrain pour que soient effacés de la scène politique, des scènes socio-économiques, tout le mal qui a été fait pour que ne règne pas la voix du peuple, pour que ne se soit pas, pour qu'on n'avance pas sur un terrain démocratique. Il faut donc une préparation du terrain pour acquérir, par des élections, sur une scène politique organisée, avec des représentants politiques des populations, différents représentants de populations politiques, pour que soit organisée une scène politique avec des élections démocratiques.
Alors, est-ce qu'il y a malgré tout pas la tentation de vouloir aller plus vite pour l'acquérir cette légitimité et sans passer par les urnes? Et là, je m'appuie sur le premier discours aujourd'hui public du nouveau chef de l'armée, c'est Tchangria. Et l'essentiel de son discours, c'est de dire l'Algérie a été victime d'une tentative de déstabilisation, un complot a visé les institutions de l'État. Et très clairement, il regardait en direction du mouvement Irak. Est-ce que ça serait pas une manière de se créer un personnage de sauveur de la nation au détriment du mouvement de contestation, Jean-Pierre Philippe?
Oui, mais ça, c'est un disque rayé qui tourne, qui tourne, qui tourne au sommet du pouvoir algérien, du régime algérien, mais qui ne convainc plus personne. Il n'y a pas la moindre trace de ce soi-disant complot dont la glorieuse armée populaire nationale aurait sauvé le pays. En fait, le seul titre de gloire que les généraux algériens peuvent mettre en avant, c'est que la contestation soit restée pacifique. Or, si elle est restée pacifique, c'est bien parce que des millions d'Algériennes et d'Algériens ont voulu, avec une détermination sans faille, préserver pendant 45 vendredis, pendant autant de mardis, sans compter toutes les manifestations qui ont eu lieu contre la présidentielle, préserver ce caractère pacifique malgré toutes les provocations qui avaient été lancés contre eux, entre autres par le défunt chef d'état-major. Et on a vu encore vendredi dernier des voyous, ce qu'on appelle en Algérie des baltagis, attaquer des défilés pourtant pacifique, avec des forces de l'ordre qui restaient totalement passives, ce qui montre que cette tentation du dérapage, de la provocation n'est pas absente. Mais effectivement, on voit bien à quel point, et j'insiste sur la notion d'épuisement biologique, de fin de cycle, de régime en bout de course, à quel point ce discours qui est répété en boucle du complot, de la déstabilisation, de la main de l'étranger, l'étranger étant toujours la France, eh bien, il ne convainc plus personne. En revanche, il y a un pays dont on parle trop peu, c'est la Russie, qui pousse ses pions en Algérie, comme d'ailleurs dans la Libye voisine avec Haftar, et qui, elle, a vraiment une convergence avec les généraux algériens, liée au fait que beaucoup d'entre eux ont été formés dans les écoles soviétiques, mais surtout à ce que le premier budget militaire du continent, celui de l'armée algérienne, est largement gagé sur des achats de fournitures russes. Et donc la Russie, elle, espère de cette nouvelle donne qu'elle tourne en sa faveur, et c'est sans doute une dimension qui est un peu occultée dans les analyses sur l'Algérie aujourd'hui.
Alors, vous parliez de blocs qu'on constitue finalement le peuple algérien à travers le mouvement du Irak face aux dirigeants du pays. Est-ce que l'armée, qui finalement a toujours eu une place prépondérante dans l'organisation et dans la direction de l'Algérie, pourrait malgré tout se fracturer? Est-ce qu'il pourrait y avoir des luttes intestines pour finalement avoir le pouvoir ou essayer d'en gagner davantage au détriment du nouveau chef de l'armée? Est-ce qu'il y a une possibilité finalement de dissension au sein de l'armée, ou est-ce qu'elle va faire elle aussi bloc derrière son chef, comme ça peut être le cas d'ailleurs en Égypte?
Écoutez, moi je pense qu'il est extrêmement difficile de dire qu'il va y avoir des dissensions au sein de l'armée. Pour l'instant, même lorsqu'ils ont réussi à évincer tel ou tel chef d'État, ils ont réussi à trouver en leur sein un consensus. Alors, il se trouve que la situation a beaucoup changé quand même, parce qu'il y a énormément de généraux qui sont en prison ou en fuite. Et par conséquent, il n'est plus possible de considérer que l'armée, c'est un bloc compact qui, dans les moments difficiles, fait face de manière unis. Alors, personnellement, je ne sais pas, et je ne veux pas commencer à tirer des plans sur la planète, sur la comète, avec telle ou telle supposition. C'est la même chose que pour les complots. Moi, je vois que, dans la situation actuelle, il n'y a pas d'autres complots que ceux qu'ils supposent ou qui existent en leur sein. Il n'y a pas d'ingérence étrangère, pour employer le mot exact, ni de la part de la Russie, ni de la part de la France, ni de la part de la Grande-Bretagne, ni de la part de tel ou tel autre État. Parce que s'il y avait véritablement un complot de ce type, on aurait eu beaucoup d'informations de la part de tel ou tel adversaire, par exemple de forces souhaitant une intervention. En fait, l'intervention étrangère est souvent avancée pour discréditer les populations qui s'insurgent contre le système politique. Le peuple dit clairement ce qu'il en est. Il n'y a aucun complot là-dessus. Il veut la fin d'un système politique qu'il a vécu, sous l'oppression duquel il a vécu depuis 57 ans. Il n'y a rien de plus clair que cela. Et il a tracé les étapes pour pouvoir y arriver. Bien sûr, pour l'instant, c'est sans effet sur la pratique politique, puisque le commandement militaire parvient à garder le système en place. Tout ce qui intéresse le pouvoir politique aujourd'hui, et donc le commandement militaire, c'est de sauvegarder le système.
C'est de le préserver.
Le faire durer le maximum, parce que c'est dans le cadre de ce système qu'ils connaissent bien, qu'ils ont pratiqué depuis 57 ans, qu'ils espèrent sauvegarder leurs intérêts, et au-delà de leurs intérêts, leur conception du pouvoir de la nation. Une nation étriquée qui ne voit même pas quelle est l'histoire millénaire de la région et qui traque un drapeau amazigh qui retrace l'histoire de la région.
Alors, on parlait de la population, finalement, elle a été en filigrane depuis le début de cette émission. Aujourd'hui, la population algérienne, le Irak, le mouvement de contestation, quelle marge de manœuvre il a de son côté? Comment faire pour finalement arriver à aller plus loin et à l'objectif final du mouvement, c'est-à-dire à prendre le pouvoir et gérer les affaires de l'Algérie. Comment ça peut se mettre en place, Jean-Pierre Philippe ?
Ben déjà, il faut imaginer, si nous étions en train de débattre de l'Algérie il y a un an, jour pour jour, tout ce qui s'est passé est inimaginable, inespéré. Ça veut dire que la voie tracée par le Chirac, cette mobilisation non violente, déterminée, dans la durée, est la seule voie possible. D'abord, par la non-violence, désarmer un régime surarmé qui a prouvé par le passé qu'il n'hésiterait pas à plonger
comme
le
en
pays.
1988.
Et puis l'horreur de la décennie noire, du fait de la suspension du processus électoral en 1992. Donc, il faut s'en tenir à cette discipline collective. Mais il faut voir que pendant qu'on attend je ne sais quel changement au sommet, l'Algérie change par le bas. Et en fait, la révolution, elle est là aussi. Elle est là dans cette redécouverte du peuple algérien par lui-même, dans cette acceptation festive, souriante, des différences, alors que le régime en place depuis 1962, ça vient d'être rappelé, martèle une identité étriquée, monolithique de l'Algérie. L'Algérie est plurielle, l'Algérie est riche de ses différences. Et elle a déjà, par cette pratique dans la rue non violente, appris à vivre avec ces différences et à faire de ces différences une richesse. C'est extraordinaire. Et ça va peser énormément dans la suite. C'est pourquoi je suis très confiant pour l'année 2020. Et évidemment, le slogan de la nouvelle indépendance, qui donne le titre de mon livre, il est au cœur de cette aspiration. L'idée d'arriver après l'indépendance postcolonial de 62, qui a été dès l'été 62 détourné par l'armée des frontières qui s'est déployée à partir du Maroc et de la Tunisie et qui a écrasé la résistance intérieure, d'arriver à l'indépendance post-dictatoriale. Et je crois que l'Algérie est en train d'inventer une forme de transition par le bas, de transition inclusive qui force vraiment l'admiration et le respect et qui gagnerait à être méditée en dehors des frontières de l'Algérie.
Machid Benchir, est-ce que vous partagez ce point de vue ? C'est une révolution par le bas, mais est-ce qu'il faudra quand même pas malgré tout eh bien des hommes pour ou des femmes pour l'incarner, peut-être pas issus du sérail, peut-être des gens peut-être inattendus, comme ça a pu être le cas d'ailleurs en Tunisie avec le nouveau président Kais Saied.
Écoutez, moi je suis assez d'accord sur l'idée que c'est quelque chose de nouveau qui est proposé par le peuple algérien, qui a su trouver, tout en tirant les conséquences des échecs des émeutes ou des tentatives d'insurrection ou d'organisation contre le pouvoir dans le passé. Tout en tirant la leçon de ces échecs, il a su employer les moyens de notre siècle, de notre temps, pour pouvoir mener une mobilisation réellement exemplaire. Elle est d'abord une mobilisation massive. Jamais, même dans d'autres pays, on a vu aussi durablement et de manière aussi déterminée un peuple suivre massivement sa jeunesse pour contester le système politique. Donc, du point de vue de l'organisation, c'est une insurrection, c'est un soulèvement. Moi, j'appelle cela un soulèvement et non pas Hirak, qui veut dire simplement mouvement. C'est un soulèvement populaire, exemplaire, très bien organisé. Imaginez n'importe quel parti politique dans n'importe quel pays du monde faire sortir pendant 10 mois des millions de citoyens dans tous les points du territoire. C'est pratiquement impossible. Le soulèvement populaire algérien et ses acteurs ont su le faire. À chaque fin de vendredi, chaque fin de mardi, ces gens-là nettoient les rues. Ils mettent tout en ordre. Jamais un service public n'a été attaqué. Jamais des forces quelconques n'ont été violemment attaquées. C'est au contraire le pouvoir qui tente d'organiser la violence aujourd'hui pour intimider sans doute les populations. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est très bien organisé. Maintenant, on peut évidemment parler des possibilités de structure ou de l'impossibilité de structurer un tel mouvement.
Et ça sera l'objet d'une prochaine émission. Merci beaucoup, Majid Benchir, donc ancien doyen de la faculté de droit d'Alger et auteur d'Algérie, un système politique militarisé aux éditions L'Harmattan. Et merci Jean-Pierre Filu, historien et politologue spécialiste de l'islam et auteur de Algérie, la nouvelle indépendance aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux et très bonne soirée.